foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Jean-François Simonin. Merci d'être là, d'être venu pour parler de vos convictions. Vous êtes chercheur en stratégie et en prospective, vous êtes philosophe et vous travaillez sur les enjeux de civilisation, les enjeux à long terme.
Oui, c'est ça. Bonsoir.
Bonsoir. En fait, nous nous sommes connus il y a déjà un certain temps dans un groupe de recherche d'éducation et de prospective, le GREP, qui travaille sur ces, qui réfléchit, qui échange sur ces questions de philosophie et puis de morale, d'éthique. En parallèle d'ailleurs avec un autre groupe toulousain qui est le service Incroyance et Foi. Et donc vous êtes tout à fait à votre place pour parler ici d'abord de votre passé, parce que je crois que vous êtes né d'une famille d'agriculteurs, donc c'est la terre, c'est le travail de la terre. Et en même temps, toujours, vous avez été interpellé par le sens de la vie sur la philosophie. Vous m'aviez dit la phénoménologie,
oui.
En deux mots.
Oui, la phénoménologie, en deux mots. En deux mots, quand j'avais 25 ans à peu près, je me suis intéressé à la phénoménologie. C'est ce courant philosophique qui est né en Allemagne d'abord avec Husserl, puis Heidegger, et qui se voulait un retour aux choses mêmes. La vie devient compliquée, la science, la technique a complexifié notre rapport au monde. Nous voulons retourner aux choses mêmes. On doit mettre le monde de la vie entre parenthèses pour retrouver les choses mêmes. Et donc c'est la base phénoménologique qui a donné naissance au courant existentialiste plus tard. Et effectivement, j'ai eu un petit coup de foudre à un moment, aux alentours de 25, 26, 27 ans, avec Merleau-Ponty, qui était le grand spécialiste français, introducteur de Husserl en France, et qui est mort prématurément, mais qui a laissé des traces positives très profondes dans tous les philosophes encore aujourd'hui présents.
C'est-à-dire que ce sont un bac dans l'Est, Lunéville, Nancy, Strasbourg...
L'est
un pèlerinage, j'allais dire, l'Est de la France, puis tout d'un coup Paris, parce que il faut gagner sa vie.
Quand on est cadre, oui, on est cadre.
Cadre d'industrie.
J'étais attiré par des entreprises qui m'ont recruté quand j'étais photograveur, quand j'étais cadre dans différents métiers de l'agroalimentaire, des sociétés de services informatiques, et donc je suis arrivé à Paris au début des années 90, juste après m'être marié, effectivement. Voilà.
Donc c'est plus des questions alimentaires que des questions de réflexion sur le sens de la vie.
Alimentaire et quelques aventures professionnelles. J'ai notamment travaillé dans une petite entreprise qui est devenue une petite, toute petite, hein, mais multinationale dans son petit secteur, de l'image de synthèse. On était pionniers, c'était très intéressant, donc on s'est jeté à fond là-dedans. On était une centaine jusqu'à faire un petit peu le tour du monde avec nos développements. Puis dépôt de bilan, parce que dépassé par le Macintosh, dépassé par les nouveaux logiciels qu'on n'avait pas vu venir, et on a été mangé tout cru par des entreprises américaines qui nous ont rachetés.
La mondialisation, voilà. Et d'autres personnes qui innovent,
voilà.
Plus que vous,
oui.
Ou plus vite que vous.
Plus vite, plus fort, plus puissant, plus riche, et qui nous ont avalé tout cru.
D'où un choc.
C'est pas très grave. Hein,
et l'avenue à Toulouse.
Oui, c'est ça.
Et puis alors aussi une interrogation profonde sur cette crise de 1995 ?
Non, plutôt de 2007-2008, la grosse crise financière de 2007-2008, effectivement. On en parlait tout à l'heure, j'étais dans le conseil en stratégie et cette crise-là que personne n'avait vu venir et les dégâts formidables qu'elle a causés partout dans le monde ont été pour moi l'occasion de reposer des questions de façon un petit peu plus profonde. Pour interroger les stratégies des entreprises, de toutes ces multinationales notamment, qui ont un impact sur l'évolution du monde, l'évolution matérielle du monde, hein, et qui n'est réfléchi par personne, pensé par personne, et ça n'arrête pas de me laisser perplexe et de m'inviter à réfléchir. Et pour trouver des solutions à ces questions-là, j'ai un petit peu abandonné, effectivement, l'économie, la science, la politique. Je trouve que tout ça est assez impuissant face, par exemple, à l'anthropocène, face à la crise écologique, face à la montée des inégalités. Il me semble que seul un retour au sens, donc à la philosophie et peut-être à l'histoire, peut être porteur d'enseignements intéressants pour la suite des événements.
Qu'est-ce qu'une civilisation ? Et est-ce que la civilisation ne va pas à sa perte? Nous sommes devant le gouffre.
Mais alors c'est le philosophe... C'est ce que dit l'Anthropocène. L'Anthropocène dit cela.
Préciser pour nos auditeurs ce terme.
L'Anthropocène, j'invite tout le monde à réfléchir à ce terme parce que je crois qu'il est, il est assez tragique, mais il porte aussi, il nous oblige à rénover un petit peu notre regard sur le monde. L'Anthropocène, c'est la prise de conscience que c'est l'homme et ses 8 milliards d'individus, la puissance de ces technologies et de ces dispositifs industriels qui a aujourd'hui un impact tellement important sur la biosphère qu'il détermine qu'il est le plus fort déterminant de l'avenir de cette biosphère.
Il faut l'homme change conscience. Le monde, c'est l'homme, ça. L'homme change est capable de changer la société, la planète.
L'homme change le monde, change la planète, effectivement. Avec l'Anthropocène, nous entrons dans un nouveau régime planétaire. Nouveau régime planétaire. Et si nous ne faisons rien, il est bien possible que nous allions vers l'extinction des conditions de vie des grands vertébrés sur Terre. Bien sûr, on ne va pas démolir la planète, on ne va même pas détruire la vie sur Terre. Par contre, on va détruire la possibilité de vie vraisemblablement pour les grands vertébrés et l'homme y compris. C'est ça, à mon avis, le risque essentiel aujourd'hui qui n'est pensé par personne, sauf quelques philosophes qui essayent de réfléchir. Pour l'instant, aucun des principaux acteurs de la mondialisation n'en fait un sujet de réflexion. Alors qu'il paraît assez évident maintenant que le réchauffement climatique, la perte en biodiversité, les accroissements d'inégalités, les risques que l'on prend avec des technologies maîtrisées par personne et utilisées à grande échelle représentent des enjeux de civilisation au sujet desquels, effectivement, j'essaye de réfléchir.
Oui, vous dites que c'est à la fois un phénomène géologique, neurobiologique, que nous sommes en présence... d'un tournant obligé de la planète ou des hommes, mais en même temps on peut dire alors d'un autre côté qu'il y a peut-être une contre-culture, bon, si ceux qui demandent un changement de civilisation, un appel à une nouvelle religion qui serait une religion du siècle vert, est-ce qu'on n'entre pas aussi dans un autre paradigme, enfin dans une autre représentation du monde tout aussi religieux?
Tout à fait. Vous faites allusion au livre de Régis Debray, je crois, Le siècle vert, que je viens de lire. Je partage complètement ses points de vue. Hein. Je partage complètement ses points de vue. On a besoin de nouveaux paradigmes. Et si nous ne sommes pas capables de mettre en place ce nouveau paradigme, j'ai bien peur qu'on aille vers des catastrophes humanitaires très importantes, effectivement, à horizon relativement proche. Ce qui est de nouveau, c'est qu'on a toujours craint des apocalypses tout au long de l'histoire de l'humanité, pour ainsi dire. Mais là, ce qui est complètement nouveau, c'est un risque d'apocalypse d'origine anthropique, d'origine humaine. Et puis alors, ce n'est plus un risque de catastrophe qui concerne les temps lointains. Il se pourrait bien que ces catastrophes-là, nous les connaissions nous-mêmes, en tout cas nos enfants, c'est à peu près sûr. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a absolument besoin, je crois, hein, après, vous savez, on est tout petit face à ces problèmes-là, on a toujours peur de se tromper, mais j'ai l'impression qu'il faut absolument trouver un nouveau paradigme et qu'il ne faut surtout pas se réfugier derrière ce que nous disent aujourd'hui uniquement l'économie, les sciences ou la politique telle qu'elle est comprise aujourd'hui dans les démocraties libérales. On ne peut pas se fier uniquement à ces programmes-là pour nous sortir de la crise dans laquelle on est entré et qui s'appelle Anthropocène. L'Anthropocène, c'est un entonnoir duquel, si nous ne trouvons pas la sortie, nous allons aller au fond de cet entonnoir et il n'y aura plus de place pour personne sur Terre. On va être obligé de rationaliser l'air, l'eau. Il est urgent de mettre en place une nouvelle civilisation, effectivement, qui saurait faire des limites, de la retenue, de la réflexion et de l'anticipation.
Pour ça, vous écrivez des livres, vous êtes profondément convaincu. D'ailleurs, vous avez écrit un troisième livre, je crois, « Anticiper à l'ère de l'Anthropocène ». Nous reparlerons encore des deux autres livres que vous êtes en train de publier, la tyrannie du court terme. Mais je vous poserai quand même tout à l'heure une question. Nous, quels sont les acteurs de cette humanité ? Pour l'instant, je crois que nous allons écouter quelqu'un qui aime bien mettre les pieds dans le plat et se demander pourquoi une petite marguerite est entrée dans le bréviaire d'un abbé.
La petite marguerite est singulière du bréviaire de l'abbé. Trois pétales de scandale sur l'autel. Indiscrète pâquerette, d'où vient-elle? Trois pétales de scandale sur l'autel. Indiscrète pâquerette, d'où vient-elle? Dans l'enceinte sacro-sainte, qu'elle et moi. Quelle affaire, oui, ma chère, croyez-moi. La frivole fleur qui vole, arrivant, contrebande des plates-bandes du couvent. La frivole fleur qui vole, arrivant, contrebande des plates-bandes du couvent. Notre Père qui, j'espère, êtes aux cieux, n'ayez cure des murmures malicieux. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. Sachez, diantre, qu'un jour entre deux avez sur la pierre d'un calvaire il l'a trouvé. Et l'a mise, chose admise par le ciel, sans embâge dans les pages du missel. Et l'a mise, chose admise par le ciel, sans embâge dans les pages du missel. Que ces messes basses cessent, je vous prie. Non, le prêtre n'est pas traître à Marie.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, Jean-François Simonin, vous êtes chercheur en stratégie en prospective, vous êtes philosophe et vous interrogez les entrepreneurs ou les industriels avec qui vous travaillez. Vous faites des conférences, vous avez écrit plusieurs livres, dont un dernièrement, La tyrannie du court terme, et vous vous interrogez sur les dogmes de cette société industrielle. Alors, ce serait une nouvelle religion, l'économie ?
Oui, l'économie est une nouvelle religion, la science en est une autre. Nous sommes entrés, même on peut le dire, dans une sorte de totalitarisme néolibéral qui conduit à se comporter un petit peu comme un système de domination qui ne pose plus la question de la démocratie comme c'était prévu au siècle des Lumières, si vous voulez. Dans ce dernier livre dont vous parlez, La tyrannie du court terme, j'essaye justement de montrer comment, quand on regarde comment fonctionnent les techniques, comment fonctionne la science, comment fonctionnent les disciplines scientifiques, les filières industrielles, comment les marchés financiers, les taux d'intérêt, le système des élections, la démocratie représentative, on s'aperçoit que le temps long disparaît. Il disparaît complètement du régime des possibles dans la civilisation occidentale. Nous sommes de plus en plus attirés par le court terme, par l'immédiat. La science y pousse, le numérique y pousse, les marchés financiers y poussent, les systèmes de valorisation y poussent, les élections. Al Gore a dit une parole assez profonde il y a quelques années. Nous sommes entrés dans un capitalisme et une démocratie trimestrielle. Il est presque devenu impossible de regarder plus loin que 3-4 mois. Donc dans ce livre-là, La tyrannie du court terme, j'essaye de montrer ça, de le démonter, de l'expliquer, et surtout de montrer qu'on ne peut plus du tout, je crois, attendre dans la civilisation occidentale que le temps long existe comme avaient su le faire exister les religions. Il a complètement disparu des radars dans les médias et il ne réapparaîtra jamais, à mon avis. Un petit peu comme le dit le philosophe basque Daniel Innerarity, je crois que c'est la tâche fondamentale numéro un du politique au XXIe siècle de réintroduire le temps long dans la pensée économique. Ce temps long a disparu, il va falloir un geste politique pour le remettre au centre des préoccupations de l'humanité.
Alors, il y a un nouveau sacré qui serait un sacré profane avec un clergé, de nouvelles normes, des obligations.
Oui, je dis, pour employer un terme un petit peu caricatural et provoquant, qu'il faut réenvisager une totémisation du long terme. Une totémisation du long terme, c'est-à-dire le long terme a disparu des radars de la pensée occidentale. Si on veut qu'il existe de nouveau, si on veut qu'on puisse raisonner pour les générations futures, pour les équilibres de la biosphère, il va falloir l'institutionnaliser, en faire un totem. en faire un totem, comme les religions avaient su le faire par le passé.
Alors l'humour, la poésie, tout ça, c'est inutile ou il faut de nouvelles contraintes ?
Pas du
tout. Un nouveau combat symbolique ?
Non, pas du tout, pas du tout. Ce sont même les raisons de vivre. Là, j'interroge les enjeux de civilisation. Je veux dire, je ne travaille pas dans le domaine de la psychologie, ni même dans le savoir-vivre, dans le savoir-être. Je suis en train de m'interroger sur les stratégies, les grandes stratégies des principaux acteurs de la civilisation occidentale, qu'ils soient d'ordre économique, scientifique ou politique. D'accord ? Je m'interroge, c'est pour ça le « nous » dont vous parliez tout à l'heure, il s'intéresse à cette question-là. Ce n'est pas du tout que je ne m'intéresse pas aux initiatives individuelles et à l'art de vivre. Là, je n'ai rien à dire de particulier à ce sujet. Mais pour ce qui concerne les enjeux de civilisation, je crois qu'il faut en passer par là. L'Anthropocène nous offre cette possibilité. Dans un premier temps, c'est un petit peu sidérant, c'est sclérosant, ça fait peur. Mais dans un second temps, on peut se dire que c'est l'occasion, justement, de comprendre que nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour remettre sur la table les enjeux de civilisation et les réagencer d'une façon nouvelle qui pourrait permettre une pérennité de la vie sur Terre qui est aujourd'hui interrogée par les stratégies de ces principaux acteurs dont nous parlons.
Alors la notion d'innovation est extrêmement ambivalente puisque vous dites que les entreprises sont obligées d'innover, mais vous en appelez à une forme d'innovation à l'extérieur de l'entreprise ou à côté. Faire un pas de côté
tout à fait.
Pour la sauvegarde de la planète.
Tout à fait. Par exemple, vous m'interrogez sur cette capacité d'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, cette capacité d'innovation, d'inventer de nouvelles technologies, d'inventer de nouveaux outils pour nous repérer et agir dans le monde, nous sommes devenus trop puissants pour pouvoir continuer à utiliser ces pouvoirs-là sans la culture de l'anticipation qui devrait l'accompagner.
Alors, de nouveau, le terme de « nous », qui pour moi, sociologue, est un petit peu flou, comme le « on », qui désigne tout le monde et personne. Alors, d'un autre côté, on parle de religion séculière, mais alors, que deviennent les anciennes religions traditionnelles ? Elles sont complètement gommées, effacées, ou vous dites que peut-être un des livres que vous appréciez, c'est celui de François Laudato si, du pape François.
Oui, tout à fait, bien sûr. Ah oui, c'est un très très grand livre, très inspirant, on peut le dire. Je ne comprends pas d'ailleurs que, je crois qu'il date de fin 2015, on est aujourd'hui en 2020, on n'en parle presque plus. Je trouve ça vraiment dommage, c'est surprenant pour moi, c'est incompréhensible que ce livre d'une profondeur importante, on pourrait dire de façon provocante que c'est un grand livre de stratégie.
Et pourtant, vous êtes un peu agnostique, ou en tout cas, Dieu, pour vous, ce n'est pas le problème primordial.
Non, effectivement.
M'avez-vous dit ?
Oui, effectivement, ce n'est pas le problème primordial. N'empêche qu'il faut laisser aux religions tout ce qu'elles ont eu de créateurs dans l'histoire. Hein. Et je pense notamment que les religions ont su s'interroger sur les questions du sens et du temps long, comme aujourd'hui, plus personne n'est capable de le faire. Et donc, les religions, pour moi, peuvent représenter une source d'inspiration extrêmement utile et intéressante. Pour reconstruire le paradigme dont nous parlions tout à l'heure, il va falloir s'inspirer des traditions et des religions.
Mais on s'en inspire tous les jours.
Oui, je dis on, je l'assume. Je l'assume. À chacun son métier, je ne suis pas sociologue. Donc je l'assume complètement.
Les gens travaillent dans les entreprises et en même temps s'interrogent sur l'utilité et la finalité de leur travail dans l'entreprise. Et s'ils ne font pas de progrès ou d'innovation, ce sont d'autres qui vont les supplanter. Ils feront faillite.
Oui,
est devant un dilemme important.
On est devant un dilemme très important, mais je ne pense pas qu'on peut continuer à jouer avec l'intelligence artificielle, avec les neurones, avec les gènes, avec les atomes, dans des proportions aussi importantes que nous le faisons aujourd'hui, sans nous interroger plus sérieusement sur les conséquences à long terme de ce que nous sommes en train de faire.
C'est votre combat, c'est votre travail.
Effectivement, je voudrais juste terminer.
Vous êtes un prophète
effectivement.
De temps.
Vous parlez de prophétie, tout à fait. Je pense que la prophétie, les prophètes ont eu un rôle très important. Les prophètes, il va falloir s'interroger de nouveau sur les prophètes. On pourrait presque même dire, figurez-vous, que la prophétie va redevenir importante par rapport à la prospective. La prospective avait été la tentative d'utiliser les sciences et la rationalité occidentale pour envisager l'avenir. Je pense qu'on est au bout de ce que la prospective peut apporter aujourd'hui.
Merci en tout cas Jean-François, le temps est trop court, mais vous allez revenir, vous qui êtes le spécialiste du temps, du court terme et de la prospective. Et merci aussi
avec plaisir
à Christophe pour l'enregistrement.